Une scène dans la pénombre, une bougie, une mystérieuse valise jaune. Bienvenue dans le cercle des poètes pas disparus.
De vive voix.
Chantal Laureau.
Virtuose des jeux de mots, funambule de l'absurde, petit prince de la poésie, il a réussi la performance, pendant les confinements successifs, de faire partager à la jeune génération son amour de la littérature en dépoussiérant les grands auteurs. Résultat, près de 200 000 abonnés sur Facebook et TikTok et 93 000 sur Instagram. Bonjour Félix Gradu.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour parler de votre nouveau seul en scène, Les mots s'improse, tous les vendredis et samedis à 19h au Théâtre des Mathurins à Paris jusqu'au 18 décembre et en tournée en France, Belgique et Suisse jusqu'à fin mars. Est-ce que les mots sont pour vous une arme de séduction massive ?
Une arme de séduction massive ? Non, je pense pas. Je pense pas que la séduction soit... massive, non. Je pense qu'en fait, elle se dirige tout droit vers une seule personne et puis on espère évidemment que ça déborde et que ça touche d'autres cœurs. Mais je pense que, en tout cas moi, j'écris davantage pour une personne.
Alors vous vous dites moins doué en dialogue dans la vraie vie qu'en monologue sur la scène. Ça veut dire que malgré le succès, vous restez un grand timide ?
Oui, je pense. Je sais pas si même moi j'oserais parler de succès parce que j'ai jamais fini mon chemin. Mais
notoriété, vous préférez ?
Oui, disons ça si vous préférez.
Ça commence
aussi.
Quand même.
Oui, bien sûr. J'espère toujours monter. Il faut toujours travailler. Après. Je pense pas que la timidité ait un quelconque rapport là-dedans. Je pense qu'on reste toujours timide. C'est un trait de personnalité qui bouge pas. Je pense qu'on s'en fait une amie. Je pense qu'on finit par se connaître. On finit par savoir ses défauts, savoir ses faiblesses. Et puis, on travaille dessus ou on s'entoure de personnes qui nous aident à s'affronter. Et puis, donc oui, je reste bien sûr très timide. Et là, par exemple, je suis terrifié.
Mais... Oui, je vois ça. Alors, vous avez 26 ans. Vous êtes comédien, auteur, poète, chroniqueur, humoriste. Laquelle de ces casquettes vous correspond le mieux ?
Je dirais aucune, sinon je m'embêterais pas à en porter plein. Non, je pense que le mot artiste, je l'aime assez parce qu'il me permet une assez grande ouverture, un assez grand spectre. Et c'est ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est d'être touché par quelque chose et de vouloir l'exprimer par l'art. Et donc parfois ça se traduit par la musique, parfois par le seul en scène, la pièce, l'écriture, la poésie, le slam, enfin peu importe, même la peinture ou le dessin. Comme dirait mon père, je suis bon dans rien, mais je touche un peu dans tout. Et ça l'énervait terriblement parce que lui, c'était quelqu'un de très fort dans un seul domaine et il a délaissé les autres. Et moi, j'ai envie de toucher à tout. Je suis quelqu'un de très curieux. Et donc, ça fait de nous des gens très différents.
Mais vous dites que vous êtes un comédien avec de l'humour.
Oui.
C'est pas mal, ça, comme carte de visite.
Oui. Vous trouvez ? Je vais en faire des petits papiers. Je vais vous voler l'idée.
Alors, donc, même si vous vous considérez peut-être avant tout comme un acteur plutôt qu'un humoriste, on rit beaucoup pendant votre spectacle, plein de poésie en même temps. Vous jonglez avec les mots, vous les malaxez, vous les triturez, vous jouez sur les doubles sens, sur l'équivoque, les homonymes. On va prendre quelques exemples. Vous vous moquez des tic-tac.
Je me moque des tic-tac. Je pense que depuis que j'ai fait le spectacle, la marque tic-tac a dû gagner énormément ou perdre, je ne sais pas encore l'influence que j'ai. Mais oui, c'est davantage pour le nom que pour le bonbon en soi, parce que à vrai dire, des bonbons à la menthe, il y en a plein. Mais je trouve ça très amusant d'appeler des bonbons des tic-tac.
Et les tic-tac menthe.
Et les tic-tac menthe, c'est la meilleure blague de mon spectacle. Vous venez de la spoiler ? Oh non !
Et on va continuer un petit peu, parce que vous en profitez pour revisiter Brel.
En fait, je profite du coup de Ne me quitte pas, qui ressemble beaucoup à Ne me tique pas. Et je trouvais ça très drôle de reprendre tous les grands classiques de Jacques Brel, qui, moi, a bercé mon enfance, et d'essayer d'y insérer de la temporalité. Et c'est un jeu très bizarre que je m'amusais beaucoup à faire, et donc j'essayais toujours de replacer de modifier des mots suffisamment pour que ça devienne des champs lexicaux d'horloge ou de temps qui passe, et de garder pourtant les grands classiques. Et voilà, donc c'est non-tac, ne me tique pas. Je trouve ça très mignon. Ben voilà, je
et
laisse.
Et puis, je t'ai apporté des...
Des tic-tacs.
Des tic-tacs.
Je t'ai apporté des tic-tacs, parce que les heures, c'est périssable. Et je trouve, en fait, ça fait sonner le texte différemment, d'amener des tic-tacs, parce que les heures, c'est périssable. Je trouve ça encore plus vertigineux.
Comment il vous est venu, ce goût des mots ?
Bonne question. Je pense que les passions sommeillent en chacun de nous et puis en fait elles se révèlent. Donc comment est-ce que ça m'est venu? J'ai lu Victor Hugo. J'étais très jeune, je comprenais pas du tout ce que je lisais parce que ça parlait un peu de mort de sa fille et puis de politique. Mais
C'était les contemplations.
c'était les Contemplations de Victor Hugo, exactement. Et j'ai été bouleversé. En fait, enfin ça a créé de l'harmonie en moi. Il y a un truc où je me suis dit mais c'est beau, ça me met en joie. Je sais pas pourquoi. Et j'ai eu envie de faire comme Victor Hugo. Et donc dès que je tombais amoureux, ça se traduisait comme ça en fait. L'immense joie que j'avais à voir la personne aimée arriver, je le traduisais par des petits vers, des petits trucs. Mais nul, nul. Je me rappelle, je faisais rimer belle avec gazelle, c'était nul. Mais j'écrivais quoi. C'est comme ça qu'on commence. Beaucoup de gens me demandent comment est-ce que vous êtes mis à l'écriture. Bah, à vrai dire, on s'y met très rapidement. Après, quand est-ce que ça devient plus ou moins bon? Quand est-ce qu'on est heureux de ce qu'on écrit? Bah, jamais. Après, on espère que ça plaise aux autres, quoi.
Mais un enfant qui lit les contemplations de Victor Hugo dans la cour de récré, c'est plutôt rare, non?
Oui.
Et
Moi, j'en ai
alors,
jamais
est-ce
vu,
que vous
mais
vous sentiez différent de vos petits camarades?
je pense pas qu'on puisse avoir la perception de la différence. Par contre, j'avais la perception de la solitude. Je me sentais très très seul, et puis j'étais très en conflit avec moi-même parce que quand on est gamin, la seule chose qu'on a envie, enfin la seule chose qui puisse exister, c'est les amis. Et j'en avais pas, et donc j'étais très en colère contre moi de pas réussir à m'en faire. Il y a beaucoup de fois où j'aurais aimé ne pas écrire, et où j'aurais aimé ne plus écrire, et où j'ai essayé d'arrêter d'écrire, d'arrêter d'aimer la poésie. Mais c'est quelque chose vers lequel je revenais spontanément, quoi. J'avais besoin de cette sensibilité-là. Et donc les autres enfants m'ont tenu rigueur. Je leur en veux pas. Hein. Les enfants sont les plus violents, mais
Vous diriez aujourd'hui que vous avez été victime de harcèlement scolaire?
oui. Aujourd'hui, genre, je peux le dire. À l'époque, j'aurais pas pu parce que je comprenais pas le concept. Parce que pour moi, c'est la seule réalité qui existait. Aujourd'hui, maintenant que je vais dans les classes, dans les cours, maintenant que je vois à quoi doit ressembler une enfance, je le réalise à quel point, genre, j'ai traversé une période bien relou et que c'est pas à ça que doit ressembler une enfance. Avoir l'estomac dans les talons en allant à l'école, se faire casser la gueule 2 fois par jour, se faire voler ses repas, cracher dans ses repas, se faire attendre à la sortie par des filles qui t'amènent dans les couloirs pour te faire défoncer. Enfin, c'est pas ça que ça leur semblait l'enfance. Mais moi, je le savais pas. Donc effectivement, oui, le harcèlement scolaire, c'est nul. Et si jamais vous en subissez un jour, eh bien parlez-en. C'est le parler qui sauve, quoi.
Et l'écriture était un refuge pour vous.
Certainement, certainement. C'était ma manière d'être mieux que moi. Je me suis jamais beaucoup aimé et je trouve que dans l'écriture, du coup, ça me permet d'être une version améliorée de moi-même. C'est comme si j'avais l'occasion de revivre plusieurs fois la même scène et d'en garder à chaque fois l'essence et de comme un parfum en fait. Écrire, c'est faire un parfum de la vie, quoi. C'est tu gardes à chaque fois l'essence des choses et du coup, t'es la meilleure version de ce que t'aurais pu dire, de ce que t'aurais pu faire. Et c'est en ça où je trouve que c'est du génie, quoi. Ça crée des personnages, ça crée Cyrano de Bergerac, quoi. Le mec, quoi qu'il dise, c'est en alexandrin, c'est écrit, c'est travaillé, c'est pensé, c'est mesuré, c'est pesé. C'est du génie, quoi.
Alors on va respirer un peu de ce parfum.
Je me suis installé à Paris, il n'y a pas longtemps, pour mes études. Et en arrivant là-bas, j'avais vraiment hâte de me balader, de découvrir un peu la capitale des Lumières. Donc je suis parti de chez moi. Et là, arrivé au coin d'un parc, assise sur un banc, je vois une fleur en train de lire un livre. Alors je ne sais pas si c'est l'effet petit belge à Paris. Je sais pas si c'est l'effet parisienne, mais enfin, en tout cas, il y a un truc dans mon cerveau qui a fait Félix! On va y aller! Et un autre truc dans mon cerveau qui a fait non, ça va. Et ben, si, on va y aller. Alors, bon, bah, du coup, j'ai pris mon courage à une main et demie. Tu vois, je me suis dit, laisse pas passer ta chance. Vas-y, mon frérot, vas-y! Alors, j'ai couru. Je me suis planté devant elle et je lui ai dit la première chose qui m'a traversé l'esprit. J'ai dit bonsoir. Comment vous vous appelez? Grosse phrase de lover. Bonsoir, comment tu t'appelles? Voilà, comme ça, si après le spectacle, vous venez me parler et que je vous demande votre prénom, c'est que je suis en train de vous draguer. Du coup, heureusement, elle m'a répondu, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Elle m'a répondu et elle m'a répondu bah, bonsoir, je m'appelle Rose. Ah bon? Rose? C'est marrant ça comme prénom, Rose. Elle m'a dit bah, pourquoi? J'ai dit bah, votre nom fait un peu écho. Rose, la rose rose. Ça fait un peu écho. Elle m'a dit non, il me semble que c'est Echo qui fait le nom de la rose.
Voilà, on a une petite idée du ton de votre spectacle, Félix Radu. À 19 ans, vous avez reçu le prix de l'humour décerné par la Fondation Raymond Devos. On va écouter un extrait du sketch « Quand » de ce grand maître de l'absurde et on en reparle juste après.
J'avais dit, pendant les vacances, je fais rien. Rien, je veux rien faire. Je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances, à quand les vacances, j'ai dit bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car. Je demande à l'employé pour quand, quelle heure. Il me dit pour où. Je dis pour quand. Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où. Je lui dis comment, vous ne savez pas où et quand. Il me dit si vous ne me le dites pas. Mais je lui dis je vous ai dit quand. Il me dit oui mais vous m'avez pas dit où.
Félix Radu, Raymond Devos, ce n'est pas du tout votre génération. Comment l'avez-vous découvert et en quoi vous a-t-il inspiré?
C'est pas ma génération. Ah bah, pour le coup, il a vachement habité mon décor, mais j'écrivais beaucoup de jeux de mots seul. C'est-à-dire qu'avant même de rencontrer Raymond Devos, je faisais beaucoup de traits d'esprit de jeux de mots dans mes cahiers. Et en fait, quand j'ai commencé le théâtre, je devais avoir 15-16 ans, je suis venu avec mon cahier devant ma prof de théâtre et je lui ai dit, j'aimerais jouer un de mes textes. Et elle l'a lu, elle a fait alors. Il va falloir que tu saches qu'il y a quelqu'un qui est passé avant toi, qui s'appelle Raymond Devos, et tu es en train de t'engager sur un terrain qui a été vachement marqué, quoi. Et donc, elle m'a offert l'intégrale de Devos, que j'ai dévoré le soir même. Et en fait, c'est marrant parce que beaucoup de gens pensent que je me suis inspiré de Devos pour faire ce que je fais, alors qu'en réalité, je l'ai lu davantage pour m'en désinspirer, pour m'éloigner de Raymond Devos, parce que j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de points communs, et il y a la moitié de mes textes de gamin que j'ai dû jeter à la poubelle parce qu'ils étaient moins bien que lui sur les mêmes thèmes. Et donc, Devos, c'est une sorte de contre-maître, quoi. C'est un gars que je pense qu'on aurait vécu à la même époque, on se serait terriblement aimé ou terriblement détesté. Je pense qu'on aurait été de très très bons potes, on aurait fait de jolies soirées, mais... Devos, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Rien que son sketch sur Caen, là, qu'on vient de passer, c'est du génie, en fait, parce qu'il arrive à la fois à faire des jeux de mots qui sont aussi des jeux de sens et qui ne sont pas du tout rébarbatifs, qui ne sont pas dans une sorte de harassement de l'esprit, quoi. On est toujours open à « ah ouais, super trait », et on les comprend toujours. Je trouve ça fascinant. Enfin, c'est un grand, grand homme.
Mais aujourd'hui, vous vous sentez plus proche du comédien et humoriste Stéphane de Groot, belge comme vous?
Non, pas tellement. Je me plais à me dire qu'on travaille la langue, mais différemment, parce que Stéphane de Groot, du coup, est davantage dans un mécanisme de sonorité et dans un mécanisme c'est pas du harcèlement, mais c'est une mitraillette qui est censée en fait te mettre ton esprit en PLS et du coup en fait t'es oh 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 mais c'est incroyable oh oh. Et Devos, du coup, lui, il préférait l'espacement et le jeu de mots vraiment très bien choisi qui fait toujours mouche. Et donc c'est vraiment deux pôles du jeu de mots. Et moi, j'aime bien l'idée d'être au milieu, de savoir faire de la mitraillette à certains moments et de ralentir pour des très gros traits d'esprit.
Agrandis-moi, force la ferveur. Réponds-moi, inspire mes peurs. Porte ma croix, juste quelques heures. Et donne-moi la foi, inspire mes peurs. Termine de signer entre les hommes l'idylle qui va me décider à rester anti-cynique. Résiste à mes idées, concile la branche sur laquelle on est assis sacré. Donne-moi des signes, attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveillais l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive, j'arrive. Excuse mes fautes, dis que c'était pas si grave. Que c'est que des échimaux, des bobos. Dis-moi que tout est possible. Si à ceux qui bravent, l'important c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille un espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive, j'arrive.
J'arrive, Ben Mazoué, dans De Vive Voix sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie du comédien Félix Radu pour son seul en scène, Les mots s'improsent, au Théâtre des Mathurins à Paris. Félix, votre spectacle s'achève avec cette chanson de Ben Mazoué. C'est votre choix. Pourquoi Ben Mazoué? Pourquoi J'arrive?
Ben Mazoué, je pense que c'est le chanteur que j'aime le plus au monde, je veux dire vivant. C'est l'artiste qui me touche le plus. Je suis... transcendé par ses textes, sa plume, sa sensibilité, sa voix. Je trouve que c'est un garçon qui dégage aussi en interview une sorte d'intelligence sensible. C'est un mec tout doux et c'est une sorte de, pas de modèle, mais en tout cas une sorte de grand frère auquel j'aimerais ressembler. Et cette chanson particulièrement, j'ai choisi à la fin parce que d'abord elle est très galvanisante et quand on l'écoute, on en sort avec le cœur rempli d'envie de bouffer le monde. Et moi, c'est l'envie que j'avais. C'est qu'en sortant de mon spectacle, les gens, ils ont envie de bouffer le monde, quoi. Qu'ils aillent dévorer une bibliothèque, qu'ils partent en voyage, qu'ils se disent « mais j'ai envie de vivre, quoi, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de brûler, j'ai envie de crier ». Et je trouve cette chanson, une fois qu'elle se termine, t'as vraiment le cœur qui fait « et j'aime ça ».
Alors, dans ce spectacle, hein, les mots s'improsent, vous convoquez Rilke, mais aussi Shakespeare ou Albert Camus. La salle du théâtre est bondée et le public est vraiment transgénérationnel, hein, je dirais de 10 à 77 ans. Oh. Comment réussissez-vous à réconcilier les jeunes avec la littérature ? Parce que les grands auteurs, a priori, ça peut faire peur, ça peut rebuter.
Oui, bien sûr. Moi, le premier, hein, je suis le premier à tirer la tronche quand on me parle d'un vieil auteur que je connais pas, parce que ils ont une image poussiéreuse et c'est normal, c'est le temps qui fait son travail. Après, l'important, c'est de rappeler que si le temps se passe, il reste des choses, comment dire ? Alfred de Musset a écrit une phrase très évocante. Il dit « Est-ce vieux que d'être immortel ?» Et du coup, il faut faire oublier aux jeunes la vieillesse et leur montrer l'immortalité des textes. Et donc, c'est en passant par la passion, c'est en passant par la jeunesse, en leur rappelant qu'en fait, la plupart des auteurs, quand ils ont écrit leur chef-d'œuvre, c'était des jeunes, en fait. Ils avaient 17 ans pour certains poètes, ils avaient 20, 30 ans pour certains auteurs. Et en fait, vraiment, quand tu leur rappelles que c'est des jeunes gars...
Certains étaient rebelles à leur époque.
Mais bien sûr, même la plupart, en fait, la plupart des grands, grands auteurs qu'on nous vend en cours de français comme des grands sages avec une grande barbe, et on leur dit arrêtez de parler, écoutez ces grands sages. Il faut leur dire non, en fait, c'est justement les fonds de classe, les chiants, ceux qui bavardaient, qui écrivaient sur les coins de bureau, les gens qui oisifs, qui regardaient le ciel, qui n'allaient pas en cours dans l'herbe. En fait, c'était eux qui faisaient vivre la poésie. Et rappeler ça, que tu n'as pas à être sage, que tu n'as pas à être bon élève pour pouvoir t'emparer de la langue française et en faire de la beauté, eh bien, c'est ça qui fait que les jeunes se sentent plus légitimes de s'en emparer. Et je pense que c'est ce pourquoi il y a beaucoup de jeunes dans mes salles de spectacle. C'est parce que on est là pour s'en amuser de la langue française. On n'est pas là du tout pour la respecter, on est là pour l'aimer.
Et est-ce que les jeunes vous écoutent parce que vous êtes pour eux comme un grand frère ou peut-être comme un prince charmant pour les ados ?
Je sais pas, pour le prince charmant j'en doute. Grand frère, j'essaye de prendre ce rôle. Après, je pense pas que ce soit vraiment à moi de le prendre. Mais en tout cas, j'essaie de montrer comment un gamin construit de travers peut mener sa vie malgré tout et peut être bien dans ses pompes. Et puis j'essaie de, moi, livrer aux jeunes les armes que j'aurais aimé qu'on me donne et puis les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. C'est pas vraiment des conseils parce qu'on les suit jamais, les conseils, mais... Enfin, de tracer ma vie du mieux que je puisse et que si quelqu'un la regarde d'un point de vue extérieur, il se dise « Ok, il a fait de son mieux ». Et je pense que si tout le monde dans le monde faisait de son mieux, il y aurait vraiment moins de problèmes.
Alors, je parlais de grand frère. Vous jouez le rôle du grand frère dans la web-série Félix Délire, lancée en avril dernier sur la plateforme éducative de France Télévisions, lumni.fr. Donc, le grand frère coach son cadet qui va passer son bac de français. Et en 5 minutes chrono, il lui fait réviser une œuvre littéraire. On en écoute un extrait.
Le malade imaginaire, c'est une comédie ballet. En gros, il y a les scènes, et c'est entrecoupé d'intermèdes musicaux, de danse. Enfin, ça permet de rythmer le truc.
Moi, je veux mourir sur scène.
Mais c'est pas tout, c'est aussi une comédie satirique. Là, par exemple, c'est les médecins et le mariage forcé.
Pourquoi les médecins ?
Ah ils les aimaient pas, hein. Le malade imaginaire, ça met en scène l'histoire d'Argan, un vieux type radin et hypochondriaque qui a peur d'être malade H24. Du coup, il s'entoure de médecins qui le soignent de maladies qu'il a pas, avec des remèdes qui fonctionnent pas.
Ouais, il se fait pigeonner, quoi.
Puis en même temps, il y a plein de répliques qui laissent sous-entendre qu'il a pas vraiment envie de guérir, tu vois. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'il a peur d'être malade, et en même temps, il veut pas ne pas l'être. Page 25, ligne 8. Tiens, regarde.
Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade.
Tu vois ? Et scène 5, page 39.
Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade.
Tu vois ? Là, c'est la servante qui lui rappelle qu'il est malade, alors que quand même, il est censé s'en rappeler.
20 capsules vidéo de Félix Délire sont disponibles sur lumni.fr. C'est vous qui avez choisi les livres classiques comme contemporains ?
J'ai fait une proposition de liste. Après, on en a reparlé avec France Télé et avec la production parce qu'on avait beaucoup de challenges vis-à-vis du bac. On voulait aider les enfants pour le bac. Enfin, les enfants, les jeunes pour le bac. Donc là, on a pris tous les auteurs du bac. Et puis, les auteurs manquants, on a décidé d'essayer de pallier au manque d'auteurs femmes et de faire une parité exacte. Et donc, on a choisi de défendre 10 hommes auteurs et 10 femmes autrices. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est dessiné.
Et c'est vraiment très éclectique, hein, puisqu'on passe de Stendhal à Marguerite Yourcenar, de Montaigne à Georges Sand, d'Apollinaire à Virginie Despentes et Marie Scondé, par exemple.
Oui, voilà, c'est ça. Autant d'auteurs classiques que d'auteurs contemporains, et puis de tous les styles. Et c'était vraiment, même pour moi, qui pourtant lit pas mal, genre, j'ai lu plein de livres que j'avais jamais lus de ma vie.
Et vous-même avez été coaché par une prof de français pour cette web-série ?
Oui, plus que coaché, même elle a été mon bras droit, mon partenaire, ma Robin. En fait, à chaque livre, je devais le lire, donc je le lisais. Et puis derrière, j'avais un cours de français en webcam. Donc elle me donnait un vrai cours avec des PowerPoint. Et elle me disait un petit peu ce que les professeurs de français attendraient des élèves. Et donc moi, je vais faire un peu le grand frère pour le coup, parce que je prenais la matière qu'on l'attendait d'eux, je la vulgarisais pour leur donner des tips pour qu'ils les retiennent mieux, et comme ça ils gagnaient plus vite des points.
Vous dites, elle a été ma Robin, allusion à Robin Williams dans le Cercle des Poètes Disparus.
Aussi, oui, et c'était Robin pour Batman, mais chacun ses références.
Ah, okay.
Non, mais Robin de Robin Williams, ça me va très bien, le Cercle des Poètes Disparus, ça me va.
Oui, parce que c'est aussi un film culte pour vous, vous le dites sur scène.
Ah bah oui, c'est comme ça que moi, je pense, le seul en scène s'est créé, s'est agencé, c'est grâce au Cercle des Poètes Disparus. Je me suis même tatoué à cause du Cercle des Poètes Disparus quand j'étais petit, beaucoup trop jeune d'ailleurs. Mais Robin Williams, ça reste pour moi le modèle de la personne que j'aimerais être, allumé par une certaine poésie, et puis transmettre ça du mieux qu'il puisse.
Et c'est tellement pour ça, charismatique.
Ouais, de ouf. Bah oui, Robin Williams, d'ailleurs, on pense fort à lui, mais enfin, hélas. Mais ouais, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la fin, j'ai dit bienvenue dans le cercle des poètes pas encore disparus, parce que je trouve ça...
Voilà, c'était mon clin d'œil en préambule de l'émission.
Mais oui, j'ai vu. Ça m'a fait plaisir.
On va écouter un extrait de la bande-annonce du cercle des poètes disparus, pour vous faire plaisir.
Tu es ici. Que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime.
Cette réussite exemplaire est le résultat de notre attachement fervent aux valeurs qui sont enseignées ici.
Travesti, horreur, décadence, excrément.
Il me revient des bruits, John, sur les méthodes peu orthodoxes que vous appliquez à votre enseignement.
Arraché, déchiré, étripé, arraché tout.
C'était quoi le cercle des poètes disparus ? Je ne crois pas que l'administration actuelle verrait cela d'un bon oeil.
Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus.
Eh bien, les poètes disparus
vouaient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie.
J'aime enseigner. Je n'ai pas envie d'être ailleurs.
Mon capitaine.
Il m'a marre. Je m'appelle Moana.
Voilà un extrait du Cercle des Poètes disparus. La poésie est omniprésente, Félix Radu, dans votre spectacle. Est-ce que c'est le Petit Prince de Saint-Exupéry qui vous a éveillé à la poésie ?
Oui, il en fait partie. Je pense qu'il l'a confirmé plus qu'éveillé, parce qu'elle s'est éveillée d'elle-même, je pense, parce que la poésie finalement est partout. Après, la retrouver dans les livres, c'est tout un travail, mais je pense que le Petit Prince l'a confirmé, parce qu'on m'avait forcé à le lire quand j'étais jeune et je ne l'avais pas aimé, je ne voulais pas le lire. Et plus tard, quand j'ai eu, je pense, 16 ans, je suis retombé dessus, je l'ai relu, et je suis descendu en larmes auprès de ma mère, et j'ai fait, mais en fait, ce livre est magnifique, il est sublime, il faut absolument que tout le monde le lise. Elle m'a dit, voilà pourquoi t'as forcé, espèce de petit con. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et clairement, Le Petit Prince, depuis que je l'ai relu, n'a plus quitté ni mon chevet, ni ma vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec la Fondation Saint-Exupéry, d'en être l'ambassadeur de la marque Petit Prince, ce qui, on m'aurait dit ça plus jeune, j'aurais fait « mais what ?» Énorme, bravo, fec. Et c'est trop fort. Et donc, par exemple, là, je viens de bosser avec eux pour un projet secret, dont je ne peux pas parler, mais qui va sortir bientôt.
Vous nous allez lécher, vous voulez pas nous en dire plus.
Totalement, je suis en train de teaser. Mais ça va être un projet trop cool avec la Fondation, et puis je suis impatient de venir même ici, à RFI, vous en parler. Bam !
Très bien, c'est noté. Alors la poésie est en train de devenir de plus en plus populaire, non seulement aux États-Unis où ça a toujours été un genre très apprécié, mais dans le monde entier, y compris en France. Cécile Lavallois a demandé pourquoi à Alexandre Bord, coéditeur de la collection Iconopop.
Alors si les jeunes aiment de plus en plus la poésie aujourd'hui, c'est peut-être que c'est une littérature qui va droit à l'essentiel, et qui, pour communiquer un sentiment, quel qu'il soit, n'y va pas par quatre chemins. Et parfois, il suffit juste de quelques mots, de quelques vers pour communiquer une émotion forte. Et c'est aussi pour cela que la poésie est assez présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce que justement, un message court a plus de chances d'être diffusé et partagé.
Est-ce que la poésie sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme des punchlines finalement ?
Alors la poésie sur les réseaux sociaux peut fonctionner effectivement comme des punchlines qu'on pourrait parfois rapprocher de la culture hip-hop et du rap, parce qu'en effet, qu'est-ce qu'une punchline? C'est une phrase forte qui frappe d'emblée, et la poésie a ce potentiel, a ça en elle, de pouvoir véhiculer une très forte émotion en très peu de mots. Et nous, à l'Iconopop, on a certains poètes, certaines poétesses qui s'expriment aussi par punchline, parmi des poèmes qui peuvent être un peu plus longs, un peu plus narratifs.
Est-ce que vous auriez une question à poser à Félix Radu?
Bonjour Félix, une question me taraude. Quel lecteur de poésie es-tu?
Alors Félix, quelle est votre réponse à Alexandre Bord, wow, qui nous écoute, hein, je crois, en ce moment?
C'est un énorme honneur. Alors quel lecteur de poésie je suis? Alors je suis pas très difficile dans la mesure où énormément de choses me touchent, et même quand ça me touche pas, j'arrive à très facilement reconnaître que c'est de la poésie. Après, moi, je pense que je suis un lecteur de poésie sur la longueur plus que sur la punchline. Je me méfie toujours des effets de manche. J'ai longtemps été client des effets de manche, des citations, etc. Et aujourd'hui, je commence un petit peu, en étant passé derrière le rideau, à vouloir voir un peu jusque où va le petit tour de passe-passe. Et donc, je suis davantage un auteur de la longueur. Et c'est pour ça que la poésie en vers me touche peut-être moins. Et la poésie qui sommeille dans des choses moins évidentes, comme des passages de romans qui subitement sortent des bouquins. Là, par exemple, j'ai lu Le Bel du Seigneur, et il y a des passages qui... Tu t'arrêtes et tu te fais « Wow, mais en fait, ça, c'est un vrai moment de poésie, là, pardon, monsieur, mais tu t'es enflammé. » Alfred de Musset, pareil, Confession d'un enfant du siècle, Les nuits d'octobre, etc. C'est sublime. Donc, voilà le lecteur que je suis, moi, de poésie.
Je vais citer quelques jolies trouvailles de votre seul en scène. Depuis la nuit des temps, le temps nous est compté. Le temps, c'est de l'argent, mais moi, j'ai du temps à revendre. Ou encore, j'ai décidé de mettre fin à mes jours parce que le jour nuit à la nuit. Comment vous les trouvez ces... Alors, je ne vais pas dire des punchlines, mais comment vous les trouvez ces petites phrases très poétiques?
En étant... toute franchise et humilité, parfois il y a des choses qui sommeillent dans la langue française, et quand on les trouve, on se dit mais elles ont toujours été là et personne ne les a jamais vues. Ou alors on nous les a laissées. Peut-être que Raymond Devos les avait trouvées, se dit bon, je vais quand même en laisser quelques-unes pour les autres. Mais et puis moi je me méfie toujours des jeux de mots trop faciles, mais comment, il y a des évidences. Et pour le coup, j'ai décidé de mettre fin à mes jours parce que le jour nuit à la nuit. Moi, j'y entends une énorme métaphore sur le monde des idées et le monde de la réalité, et justement mon enfance, qui était très partagée entre l'envie de rêveur et l'incapacité que j'avais à rentrer dans le dur de la réalité. Et c'est en ça où, pour moi, mon spectacle est à la fois très drôle et très triste, parce qu'il raconte quelque part un peu une sorte de suicide philosophique d'un garçon qui décide d'abandonner le monde qu'il trouve décevant, parce qu'il est tombé amoureux et que sa rose a fané, parce qu'il a voulu rencontrer quelqu'un, on l'a traité de fou, parce qu'il a croisé la mort et il s'est rendu compte qu'on allait mourir, qu'il allait mourir, qu'il allait être oublié. Et donc, il décide de se plonger entièrement dans la littérature qui habite son discours et d'abandonner la réalité. Et donc, c'est un peu l'histoire de mon enfance, quoi. Un jour, j'ai décidé de dire, la réalité me déçoit, je vais l'améliorer, je vais l'habiller de poésie. Voilà.
Et vous dites que vous aimez être drôle et que vous aimez être triste.
Exactement. Et pour le coup, Victor Hugo est passé avant moi et a fait cette magnifique formule que je répète sans cesse. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et je pense que je suis quelqu'un de très, très mélancolique.
Merci beaucoup, Félix Radu, d'avoir été notre invité. Vous êtes sur scène dans Les Mots s'improsent tous les vendredis et samedis à 19h au Théâtre des Mathurins à Paris et en tournée en France. Et puis, je voudrais dire bravo à Pierre-Yann Fénelon, lauréate haïtienne du prix Jeune Écriture RFI, en partenariat avec l'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie. Pierre-Yann, qui est en ce moment derrière la vitre en régie et qui a suivi notre émission. Bravo. Merci également à Cécile Lavolo qui m'a aidé à préparer cette émission et à Guillaume Ploquin qui l'a réalisée. À demain et portez-vous bien.